Amis de Radio-Occitanie et de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons dans nos studios de la rue de Sailly Jean-Michel Tartère. Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite et nous parler de ton dernier recueil paru dans la collection Encre Blanche de Encre Vive chez Michel Cozem. De Allée des Allobroges 31-770 Colomiers, face nord, recueil qui vous coûtera 6,10 €. Alors, il parle de l'écriture. Il s'agit de tout reprendre, de considérer le premier jet comme une simple base de départ. Écoute bien, parce que je te poserai ces questions. Les brouillons sont toujours le lieu d'un conflit qui se résout sans grande difficulté. Au moment de la mise au net, devant moi à nouveau un paquet de feuilles blanches. Comment répartirai-je le texte? Où vais-je coller mes citations, disposer mes mots éclatés, mes graphismes d'accompagnement? C'est un long travail qui commence. Mais je sais que j'en sortirai victorieux, que la page vierge m'oppose ses dernières résistances. Maintenant, les mots sont tous passés de mon côté avec charme et mirage. Ce sont eux qui m'aideront à gagner la partie. L'enjeu, c'est un poème somptueux, ruisselant de clarté éblouissante. L'enjeu, c'est une nouvelle approche jamais tentée de la langue. Elle répondit par ce vers, l'enjeu, virgule, c'est moi. Voilà. Alors, d'ores et déjà, qu'est-ce que tu viens d'entendre dans ce texte de Jacques Lewicz, qui me semble être un texte important pour sa création, comment lui voit le poème et comment il crée. Toi qui es poète également et qui publie, est-ce que tu te reconnais peut-être dans ce texte ou au contraire pas du tout? Tu as une approche très différente.
Non, j'ai mon approche, mais je trouve qu'elle correspond tout à fait à ce qu'il écrit, à savoir qu'il y a un brouillon avant. On va dire, là oui, le brouillon est une phase très importante dans le dans l'écriture. Hein, oui, oui, je pense que c'est une nécessité, oui. Et quand il parle de l'enjeu, oui, c'est moi, hein, oui, c'est toujours soi, oui. C'est-à-dire que dans la mesure où on conçoit le poème comme ben, une marche en avant et une quête, la finalité, c'est quand même toujours de faire au mieux, de s'enrichir par l'écriture et par ce qu'on y met, quoi, ce qu'on met derrière les mots, quoi. Voilà. Oui, l'enjeu, oui, c'est. Oui, je m'y retrouve dans ce qu'il écrit, effectivement, oui, tout à fait, tout à fait.
Alors voici ce qu'il dit un peu plus tard. Ainsi, j'ai tourné en rond, sans en avoir la moindre conscience, des heures et des heures, j'ai tourné en rond. Que d'énergie gaspillée, que de temps perdu pour parvenir à ça. Maintenant, les évidences me cernent, me collent, à mon tour, le dos au mur. Ce miroir de moi-même me devient soudain insupportable. Soigneusement, j'empile les feuilles balafrées. Je me lève très calme, comme détaché de tout. J'empoigne cette paperasse et je me dirige vers la cave. Trois marches, cinq marches. Le sol de terre battu. Dès sa porte de fonte entrebâillée, la chaudière irradie une chaleur sacrificielle et purificatrice. Me voilà de nouveau dans mon capharnaüm, accablé et soulagé. Mangrove, mansgrave, la tombe de l'homme. Pour que tout cela tienne debout, il aurait fallu inventer une ligne directrice, suggérer un regard, créer par exemple un personnage en fuite qui ferait le lien entre les diverses parties et finirait par se réfugier dans la mangrove qui deviendrait son tombeau. Il aurait fallu que le personnage... Et il conclut, cela ou la mort du texte. Alors, c'est pour que j'explique pourquoi il parle de mangrove, parce que c'est dans une publication dont le titre est Mangrove, hein, voilà, qui est publié chez Tadorn dans la collection qui est toujours, je pense, dirigée par Gérard Noiret. Voilà.
Si je puis me permettre, Jacques Christian. Lucci. Si je puis me permettre, la mangrove, oui, c'est pour moi, c'est une image aussi de. Oui, de la poésie, hein, véritablement.
Oui, c'est ce qui de. C'est ce qui de...
Parce qu'il y a une telle polysémie dans un vrai poème tel qu'on le, on peut l'entendre, et que, bon, et en même temps, il y a ce tâtonnement avant de pouvoir le. Avant de pouvoir avoir. De pouvoir le. Considérer que c'est terminé, quoi. Qu'on a un texte abouti. Et dans ce que tu viens de dire, de lire là de Jacques Lovici, c'est effectivement c'est la métaphore du tâtonnement, quoi.
C'est ça.
Qu'on retrouve dans le concept du brouillon d'ailleurs. Oui. Voilà.
Alors je vais faire quelques annonces. Je vais commencer par quelque chose que tu connais bien, puisque je t'ai vu hier acheter le livre Jean-Michel Tartère. Il s'agit de Le siècle des Jean et Marie. Un roman de Jacques Harlay. Jacques Harlay que nous avons honoré hier soir, tu étais présent.
Oui.
Et qui a reçu le prix Dominique Baudis, un prix qui est nouvellement créé donc avec la ville de Toulouse par l'association des gourmets de lettres de Toulouse. Et donc, Jacques Harlay, qui est venu souvent dans cette radio et qui a publié bien des livres, une quinzaine de livres à peu près, Jacques Harlay a fait paraître un roman qui est un peu son aventure de traverser ce XXe siècle jusqu'à maintenant. Il faut dire que Jacques Harlay a 98 ans. Et ce roman est un roman particulièrement réussi, en tout cas, que l'on doit conseiller aux auditeurs, puisque en particulier les auditeurs jeunes qui n'ont pas, comme lui, traversé ce siècle, donc qui n'ont pas cette expérience, et ce livre va pouvoir le faire revivre un peu ce qu'a vécu ce grand personnage qui est Jacques Harlay, donc un grand médecin. Un grand médecin qui avait dit qu'il n'écrivait pas sur les guerres parce que c'était trop compliqué, mais qui regardait le XXe siècle, dont le siècle où effectivement il a vécu quand même le plus longtemps, et il dit que ce siècle est sinistre et mortifère. Et depuis 10 ans, il avait envie d'écrire ce roman, et il a fait, dit-il, quelque chose d'un peu fantaisiste, un peu comme une gourmandise. Mais précisément, cette fantaisie, c'est la signature d'un romancier authentique qu'est Jacques Harlay. Alors ce roman, c'est une grande réussite, c'est dans ce livre qu'il se livre enfin, Jacques Harlay, puisqu'on y retrouve le médecin acharné de travail, médecin d'une totale humanité, qui est pris de culture, qui est pris de poésie, qui est pris d'histoire, de peinture, de musique. Et puis l'homme intime apparaît dans ce roman, qui est aussi une drôle de biographie, et c'est dans ce livre que l'émotion de la lecture est la plus forte. Alors par les descriptions, par exemple, il nous a lu hier soir le ravissement de la découverte du tableau de Vermeer, hein, la fille au turban ou la fille à la perle, où Jean et Marie vont se rencontrer devant ce tableau dans ce musée de La Haye. Mais l'historien est toujours là dans ce roman, hein, le destin de Louis XVII s'invite également dans ses pages avec l'histoire absolument ahurissante de Nondorf et sa rocambolesque aventure. Alors, c'est un homme d'une grande éthique, Jacques Harlay, on le retrouve dans ce roman. Il parle d'un personnage qui est Sophie, alors on voit bien que ce personnage qui est l'ami de la famille, l'ami du couple, Sophie, il dit une casque d'or, c'est la référence aussi de son époque, de la jeunesse de son époque. Hein. On se souvient de ce film Casque d'or avec Simone Signoret, enfin fabuleux. Et donc cette casque d'or rencontrée lors de la traversée vers l'Amérique, puisque son personnage s'en va vivre aux États-Unis, dans les années 20. Hein. Par ailleurs, cette Sophie est aussi l'arrière-arrière-petite-fille de Louis XVII, hein, qui devient donc l'ami de couple, et Jean aura, alors il dit, une vague tentation de bigamie. Donc il va renoncer, bien sûr, mais il aura éprouvé cette vague tentation de bigamie, et ça s'arrête là. Voilà. Le médecin est toujours là aussi, puisqu'il décrit les conditions des études médicales qu'il a connues en 1940, il le décrit, et c'est là que l'on voit vraiment à quel point on est éloigné de ce monde quand même, à quel point les progrès médicaux ont été faits à pas de géant, hein, ce qu'on oublie peut-être. On voit ce que c'était que la médecine en 1940, les hôpitaux en 1940, il n'y avait pas de transfusion, il n'y avait pas de réanimation. On mettait dans les hôpitaux, on mettait les gens dans 60, 70 par, dans des grandes salles communes avec des religieuses. Tout ça, bien entendu, c'est tout à fait fini. Mais par contre, il est bon aussi de rappeler que quelqu'un qui vit auprès de nous a vécu ça. Voilà. Donc, à lire dans ce dernier livre de Jacques Harlay, qui est un chef-d'œuvre et qui démontre que c'est un authentique romancier avec un style qui est sa signature, ce mélange de vérité historique qu'il a toujours recherché et qu'il appelle parfois fantaisie et qui n'est rien d'autre que le génie de son imagination littéraire. Alors, ça s'appelle Jean, le siècle de Jean et Marie, et c'est à l'Harmattan, et ça coûte 20,50 €. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots, puisque tu étais présent lors de l'hommage qui a été rendu hier soir?
Il a évoqué beaucoup de choses que j'ai pu en tête. Moi, j'ai retenu ses références au Japon, et ce qu'il dit de la période de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il était médecin, moi, je retrouve des images, j'ai retrouvé, comme ça m'est venu spontanément, des images du film du vieux fusil avec Romy Schneider et Philippe Noiret, je sais pas pourquoi. Parce que c'est un grand médecin aussi, là, qui opère pendant la guerre, opère au sens où travaille, quoi, il est en activité, et voilà.
Alors, je voudrais peut-être parler, mais bon, je pense que je vais le garder pour une prochaine fois. Un très beau livre sur l'Andalousie, hein. L'Andalousie rouge et la blanche colombe par Manuel Chavez Nogales. C'est traduit de l'espagnol par Catherine Vasseur. C'est un livre absolument passionnant. Mais je préfère simplement faire un signalement et puis je reviendrai d'une façon plus profonde là-dessus. Dire tout de même que Manuel Chavez Nogales, il est né à Séville en 1897. Très jeune, il a fait ses premières armes dans la presse locale, à Estampa notamment, puis il a dirigé le journal illustré Aura, en publiant des reportages sur l'URSS et l'Allemagne nazie. Hein, on va retrouver aussi cette période-là. Exilé à Londres sous Franco, il y meurt à Londres en 1944, il avait 47 ans. Donc, il a publié plein de romans dont je parlerai plus tard, mais je voudrais signaler celui-ci, l'Andalousie rouge et la blanche colombe. Donc, c'est aux éditions Table Ronde dans le format de poche et ça coûte il y a 160 pages et ça coûte 18 €. Je vous conseille vivement de vous le procurer, mais je consacrerai beaucoup plus de temps à ce livre que je ne peux pas réduire à quelques minutes. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant de Jean-Michel Tartère. Alors, Jean-Michel Tartère, c'est un habitué de ce micro, puisqu'il est venu souvent nous parler de ses publications. Alors, il a eu le prix de poésie des gourmets de lettres, hein. Je ne me souviens plus en quelle année c'était.
En 2016, Christian.
2016, le temps passe vite. Et je crois que tes élèves également, puisque tu es professeur, tes élèves ont été récompensés par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, où j'ai eu le plaisir de te voir lors de la remise des prix.
À deux reprises.
À deux reprises, c'est...
Bon. Et après les avoir prévenus que c'était quand même un fait rarissime, parce que c'est quand même un très grand concours, hein. National voire international, et voilà, j'ai eu cette chance-là en tant que professeur, d'avoir deux élèves que j'avais ouais, préparés, mais tout en vraiment leur laissant un libre cours à l'écriture, hein, à l'inspiration, à leur imagination, les laissant dans leur bulle, et voilà, ça a été gratifiant. Ouais, c'est une vraie reconnaissance, oui.
Voilà, j'ai eu le plaisir donc de te voir dans cette salle avec tes élèves.
Oui,
Voilà, c'était
oui,
un grand plaisir
oui,
pour
oui,
moi,
oui,
hein.
oui.
Alors, Jean-Michel Tartère, dont tu es né le 19 décembre, tu es donc un Sagittaire.
Tout à fait.
Voilà, je dis ça, je veux dire pourquoi je le sais, parce que moi je suis né un 16 décembre.
Oh ben on n'est pas loin, oui, c'est vrai, on est à 3 jours, oui.
Voilà. Alors, je ne dirai pas la date. Tu es né à Toulouse, ville où tu vis toujours,
Tout à
hein?
fait, oui.
Bon. Tu enseignes le français, le latin et le théâtre au collège de Saverdun, en
Oui,
Ariège.
oui.
Et tu collabores aux revues L'Arbre à Parole, Inédit Nouveau, Isis, L'Ours Polar, alors multiples quand il existait, bien sûr. Hein. Nous saluons ici Henri Heurtebise, hein, qui écrit toujours. L'Elixir, Phaéton et bien sûr Encre Vive, dont tu es membre du comité de rédaction. Alors, donc tu as eu, je disais, en 1999, son premier recueil intitulé Transparence, publié au dossier d'Aquitaine et récompensé par le Grand Prix de poésie de Midi-Pyrénées de la Société des poètes et artistes de France. En 2016, donc, tu as ce prix de poésie par les gourmets de lettres de Toulouse lors de son salon annuel. Et tu as reçu le Grand Prix de poésie pour son recueil Vers l'été, suivi de Fractions du jour, qui avait été publié aux éditions NEB. Alors, ce même recueil a été récompensé. Alors, voilà. Il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Donc, ce même recueil a été récompensé par la médaille de Vermeil de l'Académie des Jeux Floraux en 2017.
Oui.
Voilà. Donc, c'était moi, ça, ou c'était avant moi? Non, c'était pas
C'était
moi qui
avant
étais là,
toi.
c'était
C'était
avant moi. Voilà,
avant que
c'était
tu
l'année
arrives et que
d'avant.
tu
Oui,
sois
oui, oui.
installé à
Voilà.
l'académie. Oui, tout à
Moi,
fait.
j'ai fait la remise
Oui.
en 2018,
Oui.
exact. Donc, c'est cette année, oui. Voilà. Par ailleurs, deux poèmes extraits de cet ensemble Face Nord ont été retenus dans l'anthologie Phosphène par Monsieur Pierre Benazac, anthologie qui
Benazé.
va, Benazé, pardon, qui va paraître ou qui a paru déjà.
Alors l'anthologie est parue en début novembre
Ah, elle est parue.
2018, là, il y
D'accord, vient de
a
paraître.
à peu près un
D'accord.
mois et quelques jours, oui.
D'accord. On en parlera de cette anthologie, Phosphène. Tu nous diras où est-ce qu'on peut se la procurer, si tu le sais.
Oui,
Hein?
oui.
Alors, tu as publié parmi les derniers ouvrages. Hein, on va citer les derniers ouvrages. Vers l'été, suivi de Fractions du jour, donc dont j'ai parlé, c'était aux éditions NEB 2016. Toulouse Blues 3, Poudre de jour, Ombre bleue, Toscana, Les sources, tout ça a paru à Encre Vive.
Oui.
Hein?
Alors, Ombre bleue, non, c'est les éditions de La Porte.
Ah pardon, oui, l'édition La Porte, ok. Donc c'est un petit format, c'est ça?
C'est un petit
Un petit
format,
format, hein?
oui, ce sont
Oui,
des petits recueils, mais qui
oui.
sont vraiment très, très, très
Oui,
beaux, quoi. Très beaux,
oui,
très beaux.
oui.
Très bien conçus. Voilà, et donc, oui, je suis très, très, très content de cette maison d'édition.
Et puis l'année dernière, tu as fait paraître Autour des aubes grises, assorti d'un avant-propos de Michel Cozem et d'une encre de Sylvaine Arabeau, que nous saluons, aux éditions Alcyone.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
Et puis Neptune, je crois qu'on en a parlé sur cette radio
Oui,
de ça, hein,
oui.
Neptune, encre vive, donc cette année, et Les Cités des Brumes Bleues, donc toujours à encre vive, la même année.
Oui, la même.
Et encore, alors donc ça fait quand même cette année, c'est ton troisième publication.
Oui.
Hein, où tu publies, donc tu publies Face Nord dans la collection Encre Blanche. Alors on va te demander pourquoi ce recueil et quel est l'axe de ce recueil. Je sais que tu as demandé à ce que pour la lecture de tes textes, tu sois accompagné par une musique de jazz. Voilà, donc tu vas nous dire pourquoi.
Bien parce que quand j'écris, j'écris toujours sur la musique de jazz et que le jazz m'inspire parce que y a une fluidité dans cette musique qui à l'oreille me parle, quoi, tout simplement. Voilà. Et pour moi, on est aux origines véritablement à la fois des couleurs, on va dire acoustiques, c'est ça, on pourrait dire ça, hein, des chromatismes du son et de la musique moderne, quoi. On est à l'origine de ces deux choses, quoi. Moi, c'est lié à l'enfance, de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est lié à l'enfance.
C'est-à-dire
que j'ai baigné dedans.
Mes parents écoutaient du jazz, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mes parents écoutaient du jazz. J'ai vécu avec le jazz en permanence. Quand j'étais jeune, dans ma petite enfance, dans mon enfance, voilà.
Alors là, il y a une écriture, je retrouve une écriture un peu des derniers recueils. Il y avait une écriture plus longue, plus fournie autrefois, hein, qui a changé un peu de...
Oui, ça a évolué, oui, oui.
Et ce qui ne m'étonne pas, tu mets en exergue une citation d'André Duboucher,
oui.
Hein, qui lui, alors, effectivement, est un créateur dans l'écriture resserrée, vraiment quasi laconique, haché.
Oui, moi je dirais lapidaire.
Lapidaire, oui, voilà, oui. Hein, où il y a cette, tu dis d'ailleurs, tu cites à propos de lapidaire, tu cites Pierre Cartier de Chambre.
Voilà. Un exergue. Je l'ai mis parce que effectivement, bon, il y a aussi la citation de Werner Herzog. Alors Herzog que tout le monde connaît par ses exploits d'alpiniste, quoi. Hein, c'est un alpiniste génial, on va dire, prodigieux. Et les deux pour moi sont liés parce que face nord, en fait, pour moi c'est la pente vers laquelle tu en parlais avec Jacques Lovici tout à l'heure, hein. C'est la pente vers laquelle ma quête s'oriente, on va dire, voilà, la face nord, quoi, sachant que bon, ça va être prétentieux, mais La vie, le réel, c'est quand même du contact en permanence avec ce qui est dur. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, et en même temps, c'est une vraie réalité, quoi. C'est-à-dire que si le mental suit pas, s'adapte pas à la réalité, hein. C'est voilà. Donc la poésie, pour moi, c'est véritablement une prise de contact avec le réel permanente. Cette prise de contact va être permanente. Et le concept de face nord, pour moi, c'est lié à cette adhésion permanente à laquelle on doit se faire une obligation à la pierre. À ce qu'elle représente, à la représentation de la pierre. Voilà. Et Duboucher, pour moi, quand je parle de l'écriture lapidaire, à travers Duboucher, l'écriture de Duboucher, ça me fait remonter au haïku, où le support et la pierre, quoi. À l'origine, les samouraïs, ils écrivaient avec un sabre sur la pierre, quoi. L'écriture lapidaire, c'est vraiment l'écriture sur la pierre, quoi. Les Romains, c'est pareil. On peut parler des Égyptiens, on peut parler des Grecs. C'était à la hache, quoi. Donc, voilà, hein, l'outil dont on se servait, c'était quelque chose de, voilà. Et pour moi, je ne peux dissocier le support du signe qui est posé dessus.
Alors, face nord.
Donc, face nord, c'est tout ça, en fait. Face nord, c'est pour moi, c'est aussi ma fascination pour la montagne, parce que la montagne, je trouve ça naturellement considérable, remarquable à tout point de vue. Un paysage de montagne, c'est fabuleux, c'est une espèce de magie là quand on regarde le ciel au-dessus d'un pic, voilà, c'est extraordinaire. Et puis c'est une réalité, quoi. Le bloc, le rock, c'est quelque chose qui demande à être perçu. Pour soi-même, déjà.
Alors, avec cette phrase de Werner Herzog, Et ce titre, on a évidemment toute la verticalité. Enfin, ça nous rembourse. Déjà, la verticalité, c'est-à-dire, il y a l'effort, etc., mais il y a aussi une spiritualité, c'est quelque chose qui
l'homme.
S'élève, ce qui s'élève. Hein,
oui,
qui
c'est
s'élève.
ça.
Donc voilà,
Oui.
on va vers le ciel. On va vers le ciel.
C'est ça.
Donc il y a quelque chose de très, très spirituel, je trouve.
Oui.
Et puis, tu cites donc Herzog qui dit une curiosité fondamentale. J'ai beaucoup voyagé à pied. Les mondes se révèlent à ceux qui marchent. Il y a aussi l'effort. Je crois savoir que tu fais des marathons, il
Oui,
me semble,
tout à fait, oui, je cours le
hein,
marathon, oui.
tu cours le marathon,
Du Grand
donc
Toulouse,
il y
oui.
a ça aussi, c'est la marche à pied, hein,
Oui,
qui est important pour toi,
oui.
l'effort physique, hein, le dépassement aussi vers l'effort, en même temps ce que ça a de spirituel aussi, c'est-à-dire de travailler l'esprit par justement cette marche, c'est ce que dit Herzog, hein, c'est pas la marche pour la marche, c'est-à-dire que la marche permet justement en atteignant cette face nord, le sommet de la face nord, c'est par l'effort que l'esprit s'éveille aussi. Alors on va te demander de bien vouloir nous lire donc des extraits de ce recueil Face Nord, publié chez Encre Vive.
C'est là, devant soi, la pierre couverte de glace, dont le sommet ne peut qu'être imaginé. Jamais vu. Si ce n'est en reculant de plusieurs kilomètres et revenant sur ses pas. Un peu comme si on battait en retraite. La figure s'impose alors dans toute sa beauté, masse gigantesque, que les nuages effleurent dans leur course et dont la verticalité est pareille à celle du glaive planté à terre ou tel.
Je précise parce que effectivement il faut voir le graphisme, c'est un I majuscule, donc c'est la verticalité, le symbole donc de la verticalité, c'est
tout à
un
fait.
I majuscule
Oui.
Tout droit. Hein,
Oui.
voilà.
Pierre et glace, face nord. Structure naturellement verticale, devant quoi le corps, comme aimanté, s'approche. Pieds et mains en avant dans sa marche vers l'impossible. Pour peut-être le transmuer en chant du possible, peut-être. Armé de mousquetons, de cordes, de coinceurs, de décoinceurs, de pitons et du piolet. Et là, tenter l'ascension. La pensée allait à la pierre et ne faisant qu'un. Rigueur plus tranchante qu'une hache. Thank you. arêtes acérées, pareilles à des tranchants de hache, et dont les lignes irrégulières zèbrent la figure devant soi. Éclairs aveuglants, venus du sommet olympien que Zeus libéra de ses mains. Face nord, où cette masse gigantesque, prodigieuse, révélant un orage au-dedans de soi et notre petitesse, au regard de sa puissance manifeste. Aussi haute que majestueuse. Face nord, face à soi, là devant, circonscrite, essentielle, et seul fait considérable, non forcément pour l'ascension, mais pour sa seule présence, sa puissance, telle que Zeus et les dieux y ont élu domicile. Concentration formidable du divin, où la pierre est l'unique bien, le fondement et l'élévation.
Alors on trouve toujours cette idée de pierre, hein,
hein? Oui. Oui. Un univers de silence absolu, la pierre, autour de laquelle soufflent les vents qui inspirent la sagesse, l'élévation. Peut-être une approche de la réalité en sa forme parfaite. Ici, la face nord, absolument à rien d'autre. Un hommage à Jacques Higelin. Je pensais à lui au moment où j'écrivais le poème que je vais vous lire là, et dont je cite l'extrait de un vers, le vers d'une de ses chansons. C'était pas longtemps après sa mort. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Jacques Higelin. Une verticalité qui monte droit au ciel et dont l'aspect se confond avec le sentiment de dignité qui l'inspire. À l'homme à ses pieds, aussi petit qu'un grain de poussière. Face à l'ensemble. Face nord, bu des yeux, tel un miracle de puissance et de majesté, et seule réalité rayonnant en soi. Ici maintenant, à jamais, hors de laquelle il n'est rien. face nord, telle une vérité mathématique qui se manifeste à la pensée, devant soi, et par les sens captés, s'augmente de l'idée d'une puissance extraordinaire qui demeure jusque dans le rythme du poème. Seul axe autour de quoi les mots gravitent. L'âme du poème. Alors, Christian, si tu le veux bien, j'ai les trois derniers poèmes de ce recueil, si j'ai le temps.
Oui, c'est oui,
les
trois,
voilà,
si,
voilà les trois derniers poèmes. Voilà, les trois derniers
même,
poèmes.
Même plus.
Oh, d'accord.
Je pense que tu peux en donner plus. Il faut que tu fasses plus.
D'accord.
Je pense que même avant de lire ces poèmes à la mémoire donc de Patrick Hellinger, tu peux lire les autres. Hein, on a le temps. C'est mieux que tu... Voilà.
Paroi, comme gravée dans le ciel, et qui, par son orientation vers le nord, se couvre d'une épaisseur de glace et de neige, nécessairement stupéfiante. Que seule espérance et foi peuvent t'étreindre. Donc ces trois poèmes sont dédiés à la mémoire de Patrick Hellinger. Moi qui m'a fasciné quand j'étais gamin parce que je voyais la télé et que c'est un pionnier en matière d'alpinisme. Il a véritablement créé l'homme araignée quoi. Pour moi c'est Hellinger, c'est l'homme araignée quoi, véritablement c'est lui qui a il s'est fondu dans le mythe mais naturellement quoi. Voilà, c'est ouais, c'est une, pour moi, c'est, ça a été un super-héros. Voilà. Et DNG. C'est l'homme qui adhère à la paroi, à main nue, sans sécurité, pendu par un doigt au-dessus du vide, comme ça, et avec un mouvement... déconcertant, d'agilité, d'adresse et de fluidité. Avec un pied, il va se remettre d'aplomb. Voilà. On a des images de lui qui sont, de ce point de vue-là, qui sont extraordinaires. Quoi. Alors voilà, donc voilà, il y a trois textes qui sont dédiés à sa mémoire là que je vais lire et dont les deux premiers d'ailleurs ont été justement, on en a parlé tout à l'heure, publiés dans cette anthologie de Monsieur Benazé, Pierre Benazé, voilà qui les a très bien mis en valeur grâce au talent et au génie de Monsieur Valentin Piquemal qui est l'illustrateur de cette anthologie que je tiens véritablement auquel je tiens à rendre hommage parce que voilà, enfin, à l'un et à l'autre bien sûr, Monsieur Benazé qui a eu voilà cette gratitude d'accueillir mes textes, mais aussi Monsieur Piquemal parce que ces illustrations sont très belles, il faut la lire cette anthologie hein. Et c'est pas de la publicité gratuite, c'est vraiment elle est très belle, elle est vraiment très belle. C'est la facture de cet ouvrage est remarquable. Par les chromatismes justement. Et il a intitulé d'ailleurs je poursuis un peu. Et il a intitulé Phosphène cette anthologie, qui est là, finalement, qui est, il explique très bien, il le définit comme, et est-ce, voilà, c'est un mot qui se définit par un phénomène de rémanence de la lumière quand on ferme les yeux. C'est-à-dire que on peut avoir des images en fermant les yeux après avoir été marqué par, impressionné par une couleur, une lumière plus ou moins intense. Et les phosphènes, c'est ça. On pourrait dire, enfin, moi je le définis comme.
C'est ce qu'on voit quand on ferme les yeux. Hein.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ces éclats lumineux qu'on a, qu'on peut avoir quand il y a beaucoup de lumière et qu'on. Et qui reste imprimé dans la mémoire visuelle, voilà. Une fois qu'on a fermé les yeux. Voilà. À la mémoire de Patrick Hellinger. Toucher. Agripper des mains et des pieds par la pensée. La face nord. Le regard droit devant, toujours. Et donnant à son corps la fluidité adéquate, telle l'eau du torrent sur la pierre, à contre-courant. L'homme réalisant l'ascension éclaire par sa sagesse. Incroyablement serein, il arrivera au sommet, atteignant aussi la plénitude du roc auquel il est lié intrinsèquement. Je grimpe.
C'est un mot de Patrick Hellinger. Hein?
Tout à fait, oui, oui. Je me souviens, c'était une interview et on lui demandait, on lui parlait de sa vie, de voilà. Non, il a dit, moi, j'ai un seul but dans la vie, je grimpe. Et c'est on peut dire que c'est lapidaire, ça, du coup. Hein. Ça, c'est vraiment une citation lapidaire qui correspond, quoi. Je grimpe. C'est tout ce qu'il avait à dire, en fait, au journaliste. Sans s'arrêter jamais, ni sur soi, ni sur la pente, mais poussé par la vie, par la joie. Simplement à gravir, à poursuivre, sans jamais regarder derrière, jamais. On est à la verticale de la face nord, comme un point minuscule, un grain de poussière lumineux. Confondu au roc. Car le roc, ici, confond tout. Telle une mère poule couvant. Le roc, ici, lie l'aigle et le condor à l'homme. Le nid à l'air, au végétal, à la rose. Les mains aux ailes. Les pieds au cerf. Le roc est l'esprit de la montagne. On ne peut que l'aimer, sincèrement, absolument. Monde du silence, la paroi à laquelle on adhère. L'homme contre la roche granitique de la face nord. Fait corps avec. où les mots sont contenus dans la pierre et parfois la glace. L'homme n'a rendez-vous qu'avec lui-même. Considérant au sommet sa performance. Pareil à l'enfant assis après le jeu, il demeure dans son mutisme. Et de sa hauteur, étreint par le ciel, s'ouvre à l'étendue. Vision panoramique qui rend humble et digne de la verticalité naturelle.
Voilà. Donc là, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est l'apologie de la verticalité hein, que tu fais dans ce recueil Face Nord. Alors, Edlinger ou Edlinger, comment faut-il dire?
Moi, je dis Edlinger, on disait souvent
Edlinger.
Edlinger, il me semble.
Edlinger.
Oui, Edlinger, Patrick Edlinger. Oui.
Patrick Edlinger. Est-ce que c'est pour toi aussi la métaphore du poète?
Oui.
Hein? Quand tu dis, il dit je grimpe, parce qu'en définitive, il n'a rien d'autre à dire que ça. Et tout est résumé en ces deux mots, je grimpe. Et le poète, c'est ça aussi. Hein? Il faut que, c'est celui qui doit grimper dans cette verticalité.
Oui, oui. Je grimpe, c'est en fait, c'est deux sonorités, c'est deux mots, c'est deux couleurs. Bon, évidemment, Edlinger a donné des interviews où il parlait, évidemment, comme par exemple, moi, je te parle, etc. Donc, il répondait. Mais là,
c'est quintessence.
C'est une situation dans laquelle il a répondu. Et ils ont fait exprès, je crois qu'au montage de cette émission, voilà, ils ont arrêté, ils ont coupé là à ce moment-là. Et ça se finissait par ces deux mots. Il n'avait pas trop parlé. C'était un taiseux, hein, Edlinger. Il parlait pas beaucoup finalement. Il parlait, certes, bon, il répondait aux questions, mais là, je crois que c'est le dernier interview que j'ai entendu de lui. Et ça passait au journal des sports là de France 2 à l'époque. Enfin, c'était France Télévisions. Enfin, je sais plus comment. Oui, c'était la 2, on disait, voilà. Et je me souviens de ce, voilà. On lui a posé une question. Il a dit je grimpe. Voilà. Et c'est deux mots, deux couleurs, mais deux forces, voilà, qui évoquent mais tout ce que peut effectivement être une vie, quoi, une vie d'homme, une vie d'homme. Et par là même, une vie de poète, oui, si on veut. Oui, tout à fait.
Tu parles également, alors tu fais une référence à la mathématique. J'ai une phrase là de Saint-Exupéry qui parle du créateur et du poète et qui dit « Le créateur ou le poète n'est point celui qui invente ou démontre, mais celui qui fait devenir. » Et en écoutant ce texte, où je me suis dit « Oui, peut-être les mathématiques, c'est ce qu'il veut démontrer. » Mais celui qui grimpe, c'est moins de démontrer quelque chose que de faire devenir, c'est-à-dire se devenir vers effectivement plus haut, meilleur, plus pur que de soi, c'est-à-dire se devenir vers la spiritualité, vers plus de spiritualité. Est-ce que est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça un peu ton idée?
Pour moi, c'est que tu parles de spiritualité. Pour moi, la mathématique, c'est l'esprit et le corps, quoi. On peut pas disjoindre les deux, c'est impossible. Donc c'est l'esprit et le corps. La mathématique, c'est un corps, c'est une figure, c'est des signes, c'est un alphabet, la mathématique. Voilà. Et c'est gravé, quoi. Je veux dire, c'est la réalité. Pour moi, il n'y a pas d'autre réalité que ça.
Oui.
C'est la seule.
Mais est-ce que tu vas démontrer? Est-ce que tu as besoin de démontrer?
Mais pourquoi on démontre? Dans la poésie, on n'a pas à démontrer, on n'a pas à raconter. Mais la mathématique, pour moi, c'est presque quelque chose qui est indémontrable. Je ne sais pas si on prend Fermat ou si on prend, ils ont créé des formules qui ont été difficiles, qui ont pris des siècles à être démontrées. Après, je ne sais pas. Mais ils ont, évidemment, il y a la démonstration en mathématiques. Forcément, on est dans l'argumentatif. C'est toujours comme ça. Mais si on lit la poésie avec la mathématique, il y a un instantané dans la mathématique qui est, pour moi, indéniable, indéniable. Si tu prends un triangle, un carré, un cercle, c'est une évidence qui saute aux yeux, si j'ose dire.
Oui.
On est dans la perfection. La mathématique, c'est
la
perfection.
Voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'idée de la mathématique, c'est pas pour démontrer quelque chose et pour avoir raison sur quelque chose, mais c'est justement pour le sens de la perfection. C'est-à-dire, cette chose-là, comme tu dis, elle se détache avec une évidence telle qu'elle ne peut pas être remise en question. C'est ça. Hein?
Question pas de toi.
Oui, je comprends très bien. C'est à toi de répondre.
Je le dis aux élèves. Je dis, regardez, perfectus. Alors, non, mais je prends le latin. Oui. Je prends le latin. Le latin, tu prends l'architecture latine, tu prends la grammaire latine. Il y a un mot qui ressort souvent, c'est perfectus. Et je l'aime pas souvent pour dire aux élèves, quand on fait de la conjugaison, imparfait, parfait. Bon. Perfectus, ça signifie qui est accompli. Autrement dit, qui exprime une action, une action, pardon, ou un état. C'est le verbe, hein, action, état, accompli. Voilà. Tu prends un triangle, tu prends un cercle, tu prends un carré, tu prends un quadrilatère. Ben, c'est une figure accomplie. Voilà, l'évidence, elle est là. Alors après, évidemment, il y a l'algèbre qui s'y rajoute, il y a des calculs. Bon, mais en soi, on est dans quelque chose qui pour moi suscite l'élan vers quelque chose de mieux toujours. Et dans la poésie, pour moi, c'est ça. Est-ce que, pour reprendre Jacolovici, effectivement, on est dans le tâtonnement, mais avec cet objectif, on peut citer la figure géométrique, qui est, ben, j'essaie d'aller vers ça. Et le poème, sans dire qui, moi je dis pas que ces textes-là que j'ai lus sont parfaits, loin de là. Mais voilà. Mais il y a une marche vers, une quête vers ce qui est toujours amélioratif. Et pour moi, quand on prend, une fenêtre par exemple, eh ben tu veux. C'est un cadre ouvert vers quelque chose qui est toujours mieux. Voilà.
C'est la recherche,
un axe.
La recherche de la plénitude, la verticalité.
La recherche de la plénitude.
Et puis, bon, c'est peut-être ça, la définition même de la spiritualité et en définitive de la poésie.
C'est ça. Essayer d'aller vers l'accomplissement de soi.
Voilà, tout à fait. Chose accomplie, tu l'as dit souvent, c'est une notion que l'on a parfaitement compris. Et donc, face nord, rencontre, dans les quelques secondes qui nous restent, tu as parlé d'espérance et de foi, donc deux vertus cardinales qui s'intègrent également dans ce cheminement, qui est un cheminement de l'esprit, un cheminement spirituel, donc vers cette plénitude qui est l'axe, la face nord du poème. Hein.
La foi, oui, l'espérance, voilà. Oui, tout à fait.
Face Nord de Jean-Michel Tartère, c'est aux éditions Encre Vive, donc vous pouvez vous le procurer, 2 Allée des Allobroges, 31-770 à Colomiers, vous pouvez également peut-être le commander directement sur le site de Michel Cosem. Voilà, eh bien, alors tu nous rappelles simplement Phosphène, où est-ce que l'on peut trouver Phosphène? Alors, qui est l'anthologie dont tu nous as parlé.
Alors, c'est aux éditions Chiroptère, ou Chiroptère, on dit. Et donc, on peut les trouver auprès de Monsieur Bélanzé, de Pierre Bélanzé. On peut le trouver aussi en librairie, sur commande, ou sur le site d'Amazon. J'ai vu qu'il était sur le site d'Amazon. Peut-être la fin, que je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Amazon, vous l'avez, oui, c'est sûr.
Phosphène.
Oui,
ok.
Phosphène. Phosphène, très belle anthologie. Hein. Et puis, il y a Michel Cosem, hein, je tiens à le souligner, qui est publié, avec d'autres auteurs qui sont de véritables poètes. Monique Ruffier aussi, qui fait partie de l'Académie des Livres, hein, qui est une académicienne. Donc, de très beaux poèmes, et vraiment à lire, parce que c'est un très, très bel ouvrage.
Merci, Jean-Michel Tartère. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, à 17h.